débats de Radio Aqua. Animé par Michael Lassem.
Bonsoir à toutes et à tous, à vous tous ici présents à Minigout à l'occasion de la 25e édition du Festival international du film ornithologique, à vous tous qui nous regardez également sur Village TV, à vous les auditeurs de Radio Accor. Donc, seconde partie de notre débat consacré aux agrocarburants. Hier, nous avons évoqué des questions assez techniques sur leur mode de fabrication et les différents agrocarburants dont on pouvait disposer. Nous avons évoqué également des questions liées à la biodiversité. Ce soir, nous allons nous intéresser à d'autres questions qui concernent notamment l'alimentation, qui concernent aussi, pourquoi pas, les choix de société, et les implications économiques liées donc aux agrocarburants. Nous répondrons également à toutes les questions qui nous ont été données par la salle sur l'émission d'hier. Alors tout d'abord, j'accueille nos invités de ce soir, Marie Legrand. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes vice-présidente de la région Poitou-Charentes et vous êtes également une élue des Verts.
Tout à fait exact, et vous verrez que dans mon intervention, il y aura un peu les deux aspects qui pourront parfois être contradictoires.
Alors nous avons également Marc Pouzin qui nous a rejoint ce soir, bonjour.
Et bonjour.
Donc vous représentez le CCFD, on évoquera avec vous les questions liées au choix de la culture, est-ce qu'on cultive des agrocarburants ou est-ce qu'on privilégie l'alimentation de l'homme.
Voilà, tout à fait.
Alors nous avons toujours Gustave Talbot. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous représentez Poitou-Charentes Nature et vous êtes plutôt là pour répondre aux questions liées à l'agronomie.
Voilà.
Et nous avons toujours Michel Guinet, donc universitaire, professeur de chimie, et il répondra aux questions retraitées et il répondra aux questions qui sont un peu plus techniques, disons. Alors tout d'abord, je me tourne vers vous, Marie Legrand. Les agrocarburants, biocarburants, quelle est votre position vis-à-vis de cette alternative envisagée aux carburants traditionnels ?
Alors, il me semble que nous n'avons pas encore abordé un problème de société qui est le suivant. On parle d'agrocarburants parce que nous avons déjà vraisemblablement franchi le pic de Uber, c'est-à-dire le pic qui marque un cap dans le fait qu'il y ait moins de ressources fossiles, pétrole et gaz, que ce que demande l'économie mondiale. Donc nous allons vers une raréfaction et une élévation du coût des énergies fossiles, d'où cette recherche de substitution avec d'autres types de carburants. Au lieu de se poser une autre question qui serait celle de la diminution, de la décroissance, de tout ce qui est consommation de carburants de toutes sortes, pour des déplacements individuels en particulier, des déplacements de marchandises sur les routes. On pourrait peut-être se mettre en tête le slogan « aller moins loin, aller moins vite et aller moins souvent ». Donc ce sont des questions de ce type, je pense que nous avons à nous poser, plutôt de courir toujours plus en avant avec substituer les énergies fossiles par autre chose qui aura des conséquences calamiteuses, comme le disait dès l'année 2008 Jean Ziegler, député suisse, et scientifique, qui a annoncé les agrocarburants, qui a présenté les agrocarburants comme un crime contre l'humanité.
Alors justement, bon, sur le plan politique, de la politique européenne, nationale, voire même régionale, il y a de fortes incitations qui sont faites pour qu'on incite donc les agriculteurs à produire ce type de produit. Alors, quel est votre sentiment sur ces incitations?
Alors, on parle du plan européen, national ou régional? Qu'est-ce que vous souhaitez?
Parmi les trois, la région a été aussi à visiter.
Je parlerai plus longuement de la région, mais le cadre européen et national nous orientait déjà pour 2010-2015 vers une part très importante des agrocarburants dans la part liée au carburant pour nos déplacements. Et les députés européens verts ont déjà protesté l'an passé pour un moratoire et pour qu'on ne vote pas déjà une part aussi importante, qui doit être de 10 et 15% de la part des agrocarburants dans les carburants utilisés. Donc nous sommes sur ces positions sur le plan national et européen. Alors revenons à la région Poitou-Charentes. Bon, il y a de bonnes choses en Poitou-Charentes du point de vue de la politique régionale et de son exécutif. C'est tout ce qui concerne, je dirais, l'excellence environnementale dans presque 90% de ses choix. Mais malheureusement, il y en a quelques-uns qui ne sont pas excellents. Dès 2004, nous avons fait le choix d'accompagner les deux coopératives, la SICA Atlantique à La Rochelle et puis la coopérative du Centre-Ouest qui malheureusement n'a pas de représentant aujourd'hui, ce que je regrette, car j'aime bien, j'avais pris l'habitude avec vous des débats contradictoires à Ménigoutte, et là ça sera un peu moins gai puisqu'il n'y a pas de voix, je dirais, un peu contrastées parmi nous. Alors j'en reviens à la région. La région dès 2004 avait fait le choix de soutenir, certains, ce qu'on appelait l'accompagnement des agrocarburants sur deux grandes coopératives, mais également, et ça c'était très bien, des programmes de recherche sur les carburants de seconde et troisième génération, d'où l'histoire des micro-ADES au Vigean qui est maintenant complètement opérationnel, et ça c'est un progrès, recherche fondamentale. Alors à cette époque-là, dès 2004 et surtout 2006, on a lancé ce fameux plan après pétrole. Alors là, on est allé tous azimuts. Il y avait agrocarburant avec ses deux unités. Il y avait le B30, le fameux B30, c'était à 30% de carburant d'origine agrocarburant dans les TER, dans 7 locaux TER en région. Et même les bateaux de pêche, il y avait droit donc à cette utilisation. Et là, j'étais beaucoup plus réservée, voire hostile, à un emballement aussi rapide en 2006 sur les expérimentations de carburant de première génération. Bon, ils ne sont pas abandonnés. Le B30 a fait l'objet d'un bilan énergétique la semaine dernière, bon, qui est un peu contrasté. On dit que le B30, eh bien, c'est pas si mal que ça sur nos 7 locaux, parce qu'il produirait moins 25% de gaz à effet de serre que les carburants anciens diesel. Mais à quel coût? Il y a un énorme surcoût pour la région. Et puis, il y a aussi un coût en termes de surface, 80 hectares consacrés à cette expérimentation du B30. Donc, tout ça pour vous dire que, je ne veux pas monopoliser la parole, j'ai des voisins, il y a des questions, j'étais quand même très, très réservée sur un certain nombre d'initiatives autour de ces agrocarburants de la première génération. Je le suis toujours.
Alors, je me tourne maintenant vers vous, Marc Pouzin. Concernant le choix entre une agriculture destinée à l'alimentation humaine ou une agriculture destinée à faire rouler des voitures. Alors, ça peut paraître un peu réducteur, mais est-ce que l'alimentation, le secteur de l'alimentation est véritablement menacé par l'expansion de l'agriculture qui est destinée à produire des agrocarburants?
Alors, tout à fait, puisque donc au CCFD, nous avons ce qu'on appelle des partenaires, c'est-à-dire des gens que nous soutenons dans leur initiative de survie ou d'éducation populaire. Et nous avons des retours catastrophiques de conditions humaines provoquées par cet engouement pour notamment la canne à sucre, par exemple, au Brésil, où des gens sont payés 1 euro pour 10 à 12 tonnes heure. Par jour, donc ça leur fait 12 euros par jour de salaire. Donc les droits humains sont bafoués, l'expulsion des paysans est monnaie courante, voire des fois même par des épandages de pesticides, disons comme ça, on a flingué toutes les productions vivrières. Donc nous, oui, on a une réelle interrogation sur la justification et la concurrence avec l'humain. Il faut savoir qu'il faut 232 kg de maïs pour produire 50 litres d'agroéthanol. Et c'est aussi ce qui nourrit un enfant pendant un an. Donc, on sait c'est vrai, nous faisons le choix de vie humaine plutôt que le réservoir d'automobile.
C'est-à-dire qu'un plein correspond à un an de nourriture pour
enfin, au niveau calorifique, c'est l'équivalent. Donc, c'est quelque peu choquant. Et bon, ça a été dit tout à l'heure. Par rapport aussi à l'impact sur les forêts, en Indonésie, c'est un terrain de foot tous les 10 secondes qui disparaît. Et de forêts primaires avec une biodiversité, enfin, il y a des spécialistes mieux que moi pour en parler, mais c'est-à-dire que c'est une incidence sur l'environnement et on parlera aussi du bilan énergétique de ces choses-là. Mais nous, encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est que deviennent les gens sur place. C'est-à-dire que souvent, ça va grossir les bidonvilles. C'est des terres qui servaient au moins à l'autarcie dans un premier temps, c'est que les gens, ils survivaient de leur production. On les expulse, on en fait des travailleurs précaires, et voire donc des pauvres dans les bidonvilles.
Alors, 230 kilos donc de céréales pour produire à peu près l'équivalent d'un plein d'essence, on imagine la quantité de terre qu'il faut mobiliser pour, si on espère, remplacer les remplacer les carburants traditionnels par les agrocarburants. Est-ce que on a un élément de réponse sur la quantité de terre qu'il faudrait mobiliser pour que les agrocarburants soient suffisamment disponibles pour utiliser les transports tels qu'on les utilise aujourd'hui?
On n'a pas cette terre pour, même sur le plan du monde entier, on n'a pas cette terre pour produire des agrocarburants au niveau des besoins que nous avons aujourd'hui en énergie. Donc ça, c'est bien clair. Les objectifs qui sont de l'ordre de 10%, un peu moins, je crois, en Europe, ça va mobiliser quand même, j'ai plus en tête le nombre d'hectares, mais c'est quand même considérable.
C'est 2 millions d'hectares en 2010, et c'est pour 7%. 7% donc des agrocarburants dans les carburants. Et ça veut dire que c'est 2 millions sur 18 millions de terres cultivables. C'est-à-dire plus de 10% des terres cultivables seront utilisées pour mettre 7%, pour produire 7% des carburants.
Alors, venons-en maintenant aux questions du public. Alors, une première question qui nous est peut-être destinée, c'est pourquoi les pétroliers ne participent-ils pas à ces débats qui, du coup, ne sont pas contradictoires? Alors, on avait invité Centre-Ouest Céréales à participer à ce débat, mais ils se sont démobilisés au dernier moment. On n'en connaît pas, on ne connaît pas les raisons de leur non-venue. Ils nous ont prévenus au dernier moment pour...
Mais c'est vrai que les pétroliers sont aussi très impliqués dans les agrocarburants. Bon, si on parle de l'éthyl tertiobutylétaire, donc Total, l'Institut français du pétrole sont très impliqués dans la fabrication de l'éthyl tertiobutylétaire. Et Total est en train de lancer un certain nombre d'opérations, d'ailleurs subventionnées par la France, pour développer des agrocarburants de seconde génération.
Alors, on a évoqué tout à l'heure les choix de société. Alors, si on a l'impression que les agrocarburants ne sont pas une alternative crédible, à quel autre choix devons-nous faire face? Est-ce qu'il y a d'autres sources d'énergie à exploiter? Est-ce que, comme vous l'avez dit, Marie Legrand, il faut plutôt envisager la décroissance? Oui, Marie Legrand.
Je vais insister sur ce point de vue. Il faut, je pense, aller sur une décroissance des déplacements, des déplacements des marchandises et des déplacements des personnes dans des véhicules individuels et aller vers une amélioration des transports doux et des transports collectifs. Alors, c'est facile à décréter, mais ça veut dire qu'il faut une prise en compte courageuse par les responsables et par l'ensemble de la population et rapide, une reconversion rapide de toute notre manière de vivre. Je prends un exemple. Tout nous disait l'huile produite par les agriculteurs eux-mêmes et utilisée directement pour leurs machines ou leurs moteurs, c'est excellent. C'est excellent parce que cette huile, elle est produite sur leur terrain, ils l'utilisent directement, elle ne voyage pas. Et vous avez cité de très bons rendements, M. Guinet. Ce qui pose problème, c'est la circulation sur les routes, je parle de l'Europe, et même sur des voies aériennes et maritimes, de marchandises les plus variées qui viennent approvisionner nos hyper et nos supermarchés. Alors que si nous orientons tout de suite vers des circuits production-consommation courte, eh bien nous économiserions déjà des quantités phénoménales de carburant et de déplacement. Donc là, il faut une volonté politique forte d'aller sur un autre mode de production et de consommation. C'est un enjeu majeur.
Alors, une question maintenant de Vincent. Alors, qu'est-ce qui incite les agriculteurs à produire des agrocarburants? Et si ces productions ne s'avèrent pas bio ou écologiques, qu'est-ce qui pourrait les dissuader de les produire? Si vous répondre à cette question, Gustave Talbot.
Un petit peu compliqué, c'est-à-dire qu'on produit de la même manière les agrocarburants que l'on produit un blé qui est bête à destination alimentaire. Sauf qu'il y a quand même des contrats, très souvent, donc les coopératives, c'est dommage que M. Trigo n'est pas là, les coopératives passent contrat, et je connais une coopérative en centre qui doit mettre 10% de sa production vers les agrocarburants, ce qui va lui poser des problèmes par ailleurs. Et je pense que les raisons sont diverses. Et ensuite, on peut dire que avec le fait que l'on défiscalise, on va refiscaliser quelque peu, l'équivalent de la TIPP, autrefois la taxe sur les produits pétroliers, il n'y a pas l'équivalent sur les agrocarburants, ce qui les rend compétitifs, mais de manière un peu anormale. Et donc la décision est prise de les refiscaliser.
Les agriculteurs, j'ai vu un certain nombre d'organisations agricoles qui commencent à crier, puisque on est en train de penser à une taxe volontaire obligatoire, regardez l'euphémisme, taxe volontaire obligatoire, sur l'ensemble de la production des céréales et oléagineux pour financer le phénomène. Donc, vous voyez bien que on est vraiment parti sur la tête dans ce phénomène.
Michel Guinet, vous vouliez réagir?
Bien, je ne sais pas si Dominique Bouchereau, quand il était à l'agriculture, représentait l'opinion des agriculteurs. Mais en tout cas, donc, un des arguments principaux qu'il avançait, c'était des débouchés pour les productions agricoles, une augmentation du revenu agricole. Voilà sur ce point. Alors, mon voisin vient de parler de la refiscalisation. Alors, je ne sais pas si on est parti dans cette direction, je suis plus pessimiste. En effet, donc, au départ, donc, il y avait une exonération de 25 euros par hectolitre d'agrodiesel et 33 euros pour l'agroéthanol. C'était revu chaque année, ça c'était environ en 2005. Pour 2009, ça devait passer à 13,5 et 17 euros. Mais la protestation des agriculteurs, enfin des fédérations agricoles, et des députés qui les ont soutenus, a fait qu'on a maintenu donc la diminution de la TIPP à 15 euros et à 21 euros, soit 10 et 20% de plus. Ce qui fait que cela rend intéressant la production de ces agrocarburants pour les agriculteurs, ou tout au moins pour ceux qui les fabriquent. Je voudrais quand même dire qu'il y a effectivement l'autre versant qu'il faut considérer. Alors, il y a eu en 2008, le coût finalement de cette exonération, ça a été 800 millions d'euros pour la France. Augmentation régulière, en dépit de la diminution hein, de la réduction. Et si on prend l'OCDE, c'était 15 milliards d'euros en 2007, de soutien donc pour la production d'agrocarburants. Et un calcul qui a été fait a donné que le coût de réduction du tonne de CO2 par les agrocarburants de l'OCDE était de 800 euros. À titre indicatif, la taxe carbone, c'est 17 euros, ce qui est le prix moyen par tonne de CO2, ce qui est le prix moyen du marché des droits d'émission.
On voit donc que les incitations, la défiscalisation et les subventions pèsent énormément sur les budgets. Est-ce que ce n'est pas compensé d'une certaine manière par une réduction de la facture pétrolière, ou vous l'aviez évoqué dans les précédentes émissions, Michel Guinet, avec l'usage aussi que l'on peut faire des produits dérivés. Gustave Talbot, Marie Legrand.
Oui. Non, ça me rappelle, tout cela me rappelle, vos questions me rappellent le grand débat fabuleux qui a eu lieu hier à Ménigoute, organisé par la région sur le coût économique de la biodiversité, d'ailleurs auquel on n'a pas pu répondre au bout d'une heure parce que c'est extrêmement complexe. Comme dans notre calcul économique, on ne compte pas les dégâts de l'agriculture productiviste et intensive sur la santé des agriculteurs eux-mêmes, qui ont maintenant des maladies neuroses, dégénérescentes, des cancers, etc. On ne compte pas l'impact sur leur famille, sur les riverains, sur les sols, sur l'eau, sur la biodiversité, des calculs encore plus compliqués à faire. Donc là, on parle un peu dans le vide. C'est bien, vos informations sont précieuses sur les taxes, les incitations, parce qu'on comprend pourquoi la FNSEA s'est engouffrée tête baissée dans cette affaire des agrocarburants qui m'a paru très juteuse. Parce que dans nos calculs économiques, on ne prend pas en compte les coûts sur la santé, l'environnement et la biodiversité.
Alors, il y a deux usines dans la région, une à Chalandré, donc qui est détenue par Centre-Ouest Céréales. Alors, on nous pose aussi une question, que devient l'usine d'agrocarburant de La Rochelle? Et est-ce que l'apparition de ces usines n'est pas également un avantage, du moins en termes d'emploi?
Alors, ça y est, nous l'avons, la question, bravo pour votre question, hein, parce que c'est toujours l'argument de l'emploi. Ça me fait penser à la porcherie de Chauvigny avec ses 10 000 porcs qui arrivent, qui va créer 2 emplois et qui va détruire 7 porcheries dans le Limousin, donc qui va détruire 15 emplois pour 2 ici. Idem à Cloué, idem en Nord de Sèvres. Bon, ça c'est l'exemple des porcheries. On revient à cette histoire de coopérative, où il y a quoi, quelques dizaines d'emplois qui vont être l'alibi pour justifier un agrandissement dont l'enquête publique vient de se terminer, je dirais d'une manière pas très facile d'ailleurs.
Il y a une vingtaine d'emplois, semble-t-il, à Chalandray, mais peut-être qu'il y en a un certain nombre qui étaient déjà utilisés par la coopérative qui existait sur place.
Alors moi, il me semble qu'une reversion, une conversion écologique de l'économie irait vers un autre mode de production décentralisé avec circuit court, comme je disais tout à l'heure, et non pas ces grosses usines à gaz qui collectent massivement tout ce qui se produit autour, parfois dans des rayons assez importants, et qui sont des pompes dans les deux sens à camion qui vont redistribuer le produit final sur la côte ou même beaucoup plus loin jusqu'à Bordeaux.
Alors, sur la question de que devient l'usine de La Rochelle ? Vous ne savez pas ? Alors maintenant, une question...
Elle continue
à exister.
Quand on construit une usine, ensuite, on la fait tourner. On ne la détruit pas 5 ans après. Et c'est justement là le gros problème des agrocarburants de première génération, c'est que l'on n'a pas attendu suffisamment pour savoir, on n'a pas fait d'expérience suffisante pour savoir si c'était intéressant ou non. On s'est précipité tête baissée, mais maintenant que les usines existent, il sera bien difficile d'arrêter la production.
Alors, une question maintenant de Jean-Marc Pinault, alors qui s'adresse peut-être plus probablement à Marc Pouzin. Alors, sur le sujet des agrocarburants, on a abordé donc les dangers liés à l'écologie, mais sur le volet social, n'y a-t-il pas un plus grand danger ?
Alors, tout à fait. J'ai abordé rapidement quelques exemples. Nous sommes toujours en relation donc avec des gens, population, je vous dis, ça va par tout le monde, hein, de l'Afrique à l'Afrique du à l'Amérique du Sud et l'Indonésie. Bon, je crois que c'est une grande illusion qu'il y a eu sur les agrocarburants. Le problème, c'est que il y a aussi un agro-business, je ne sais pas comment le qualifier, qui s'empare de cette un peu cet or vert, ou je ne sais pas trop dépendre de la couleur de la tige de la fin, mais je crois que c'est un peu un miroir aux alouettes, et ceux qui trinquent, c'est les paysans de base, quoi. Et donc, c'est pour ça que le CCFD a lancé en 2008 une campagne avec d'autres partenaires, hein, sur les agrocarburants, ça nourrit pas son monde. Incitant donc l'Europe à réduire, qu'effectivement ça peut être une opportunité même localement dans les pays du Sud pour se chauffer, tant qu'elle est consommée sur place, c'est pas dérangeant, mais d'en faire une stratégie des États pour exporter vers l'Europe ou les pays du Nord pour généraliser, ça paraît assez catastrophique. Et donc, encore une fois, il n'y a pas de social, il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, c'est de toute façon du travail précaire, donc de l'exploitation, c'est le retour de l'esclavage pour faire rapide. Et donc, on incite l'Europe à lever le pied et il y avait des pressions politiques. Enfin, le but de la pétition, c'est de faire pression sur les députés européens pour revoir à la baisse le taux, parce qu'on avait fait même du zèle en France, effectivement, sur le pourcentage, plutôt 2015 que 2020. Et donc, l'idée, c'était de réduire pour empêcher cet appel un peu d'Eldorado vers le nord, que les pays du Sud ne se sentent pas incités au moins. C'est la moindre des choses d'être conscient chez nous des dégâts qu'on fait là-bas.
Alors, une question maintenant de Hélène Chemwell, j'espère que je prononce bien. On l'a déjà évoqué tout à l'heure, Marie Legrand, la question des transports en commun. Alors, la question telle que la pose Hélène, c'est la question des transports en commun n'est-elle pas abordée en urgence dans un tel débat ? J'ajouterais, est-ce que on peut, de manière crédible, penser à une reconversion totale du mode de transport en France vers plus de transport en commun, ou du moins le mode de transport en commun sur le transport prioritaire et pris donc en priorité par l'ensemble des Français. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce qu'on peut envisager une modification comme ça des comportements qui puissent permettre ce mode de transport?
Oui. C'est difficile de parler des transports en commun et des transports en général sans oublier la question de l'urbanisme et de l'urbanisation des territoires. Le Poitou-Charentes vit depuis une quarantaine d'années une périurbanisation massive autour de ses villes et de ses bourgs, qui d'une part mite la campagne, empiète sur des territoires qui ont des vocations agricoles, et fait que ces personnes qui ont été contraintes pour X raisons à ne pas habiter dans les centres-bourgs ou dans les grandes agglomérations où il y a des transports en commun efficaces, sont obligés, n'ont pas d'autre solution que de prendre la voiture individuelle. Donc les deux sont liés, une réflexion sur les transports collectifs et en même temps une réflexion sur le fait qu'il faut absolument arrêter une urbanisation non maîtrisée autour des bourgs dans la campagne. Moi je pense que des solutions intelligentes sont possibles avec des modes de transport et des financements bien sûr affectés, mais en même temps il faut cesser ces erreurs du passé sur l'urbanisation n'importe où.
Alors à présent une question d'Alexandre qui s'adresse peut-être à Gustave Talbot. Pourquoi ne jamais envisager ces cultures donc d'agrocarburants en agriculture biologique?
Oui, mais il y a un problème qui est cause de rendement, on l'a vu tout à l'heure, donc on va aggraver le phénomène si on les produit de manière biologique, le rendement brut de blé va être moindre, et donc ça va encore rendre moins compétitif, donc ça ne me paraît pas une bonne idée non plus. Il faudrait que nous pensions également à la forêt. En France, Pot-de-Ferrand, il y a 400 000 hectares, par exemple, de forêt, et on n'utilise en gros que les deux tiers. C'est-à-dire qu'il y a un tiers, pour des raisons diverses et variées qu'on pourrait évoquer, mais il y a un tiers de la production de la forêt qui n'est pas utilisé aujourd'hui. Donc il peut être utilisé de différentes manières. L'idée de faire des maisons en bois est une excellente idée parce qu'on stocke du carbone. Une deuxième idée, on peut également transformer du bois, c'est ce qui est tout l'éclaircissage dans les forêts et compagnie, peut être transformé soit en plaquettes, ce qui est déjà une formule moins onéreuse. Et éventuellement, ça peut aussi être transformé en agrocarburant, éventuellement, ça c'est possible. Par contre, l'idée de cultiver la forêt, comme certains les mettent, de faire des taillis qui poussent au bout de 3 ans, je crains fortement que l'on retombe dans les mêmes problèmes que nous avons évoqués tout à l'heure pour la culture des céréales. Donc il me semble qu'il y a là une voie qu'il faudrait regarder de près, mieux utiliser la forêt, parce que l'intérêt, c'est de ne pas l'exploiter, à des inconvénients. C'est-à-dire qu'elle émet du méthane, ce qui aggrave notre phénomène de GES. Alors que l'exploiter, au contraire, quand un arbre qui pousse, quand il va en croissance, il va stocker du carbone. Donc là, il y a un domaine qu'il faudrait qu'on regarde de plus près, me semble-t-il.
Michel Guinet, vous voulez réagir?
Dans le même domaine, la méthanisation est très peu répandue en France. Or, les lisiers sont épandus tels quels, ce qui pose des problèmes d'odeur et qui dégage également du méthane. C'est la même chose pour les déchets alimentaires. Là, c'est une question un peu à la région. Hein. N'y aurait-il pas la possibilité de développer beaucoup plus la méthanisation que cela n'est fait? Cela existe au Vigan, mais je rappelle que c'est récupération du méthane d'une décharge. Quand on parle de déchets alimentaires ou quand on parle de lisier, c'est directement donc l'utilisation pour en faire du méthane.
Marie Legrand.
Réponse directe sur la méthanisation et après sur la filière bois. Sur la méthanisation, alors peut-être qu'on ne l'a pas assez dit, il faut aller que vous alliez sur le site de la région. Nous avons déjà accompagné par le Fonds régional d'excellence environnementale un projet de méthanisation en Vienne, autour de Saint-Jean-de-Saulve, il me semble, et nous avons lancé un appel à projet méthanisation à la ferme, et déjà les réponses sont en train de nous parvenir. Et ces projets sont financés par des fonds ADEM Région, déjà.
Les déchets alimentaires.
Ah, mais moi, je parlais pour le moment de méthanisation, tout ce qui est lisier, ce dont vous parliez.
Les déchets alimentaires.
Alors, dans l'appel à projet, on verra bien qui répond, hein, mais il me semble qu'il est quand même ciblé sur le monde agricole, dans un premier temps. Et sur la filière bois, énergie, alors on ne parle pas de la filière bois-construction, bois-énergie. La région est très dynamique en la matière puisque nous avons lancé un plan bois-énergie en réunissant régulièrement l'ensemble des partenaires de la filière. Nous accompagnons d'une part, en bout de course, la consommation de bois-énergie en finançant des chaudières individuelles qui sont montées en puissance d'une manière incroyable depuis 5 ans, granulés, plaquettes bois, et puis des très très grosses chaudières pour des collectivités locales ou des entreprises ou toutes sortes d'entités. Donc c'est une filière, je veux dire, qui est très active, et en même temps on encourage la production locale de granulés ou de plaquettes. Donc il y a certains territoires en Poitou-Charentes très dynamiques sur la question. Il me semble que le Sud-Charente et surtout le Civraisien font partie de ces territoires dynamiques. Et pour finir, nous avons un partenaire qui est l'AREC, l'Agence régionale environnement, énergie, climat, une petite agence de 7 personnes, qui lance une étude qui va durer une année sur le gisement mobilisable en Poitou-Charentes en biomasse.
Alors, la biomasse, ce n'est pas seulement les troncs d'arbres. Hein. Les gens croient que c'est les bois, non. Tous les résidus connexes, tous les résidus des scieries, la paille, tout ce qui peut être utilisé comme combustible. Hein. Donc, cette étude, dans un an, nous donnera le résultat de ce qui est mobilisable et utilisable.
Marc Cousin, vous vouliez ajouter quelque chose?
Je voulais juste compléter la réponse de Gustave. Par rapport à l'agriculture biologique, je conçois qu'elle est moins pertinente en rendement. Par contre, elle a certainement, et je sais de quoi je parle, une efficacité économique puisqu'elle a moins de recours aux intrants. Donc le bilan énergétique serait meilleur. Donc il faut contrebalancer l'agriculture industrielle, laisse trop recours aux chimiques et donc à un coût énergétique très élevé pour produire. Donc ça peut amener un bilan meilleur, sauf que ce qui est bio, faut peut-être déjà le donner aux humains encore un coup pour pas se tromper de priorité.
Alors, si on conçoit par exemple que les agrocarburants produits dans les zones tropicales et qui seraient destinés à l'exportation vers les zones tempérées où on utilise beaucoup d'agrocarburants, est-ce que A contrario, on ne pourrait pas favoriser des filières locales qui empêcheraient l'importation.
Ce qui a été dit déjà depuis deux ou trois fois dans cet après-midi, c'est-à-dire les filières courtes, oui, elles sont rationnelles, elles sont efficaces sur le plan économique, et elles sont intéressantes sur le plan du rendement énergétique. On a vu que toutes les autres filières, les deuxième génération, troisième génération, on ne les connaît pas encore bien. Enfin, je suis un petit peu prudent en la matière, puisque quand on a commencé à parler des agrocarburants il y a 10 ans, ça paraissait tout à fait intéressant, mais parce qu'on n'avait pas fait le tour. Hein. Ça me rappelle ce que j'avais connu dans le passé, le port breton qui arrivait dans Poitou-Charentes moins cher que nous ne pouvions les sortir, mais on n'avait pas compté tous les coûts environnementaux. Voilà, donc il ne faut pas se tromper, il faut bien tout compter. Et en la matière, donc, je voudrais souligner tout ce qui m'a vraiment étonné quand j'ai préparé le dossier, c'est de découvrir que dans l'accord de Kyoto, on a les pays qui utilisent les agrocarburants, le CO2 produit par les agrocarburants n'est pas pris en compte dans le bilan. C'est-à-dire qu'on estime que c'est nul. Ça n'ajoute pas. Donc c'est un encouragement aux agrocarburants qui me paraît pas une très bonne idée. D'autant plus qu'il y a quand même un certain nombre de pays de par le monde, et on l'évoquait, ça nous concerne nous, si on parle d'importation. C'est-à-dire qu'on va aussi, nous, en important des agrocarburants avec les inconvénients qu'on a évoqués tout à l'heure, aussi améliorer notre bilan. C'est quand même, ça me paraît aussi étonnant. Et j'espère qu'à Copenhague, on va poser le problème. Je n'ai pas eu le temps de regarder si c'est à l'ordre du jour, mais il me semble que c'est une question qu'il faudrait bien regarder de plus près.
Alors, une autre question qui vous est destinée, Gustave Salbeau, de Laurent Chivot. La production d'agrocarburants ne favoriserait-elle pas la mise en place de cultures OGM, en particulier en Europe?
Ah, c'est encore possible. Alors, je ne sais pas si la personne qui pose la question a des soucis par rapport aux OGM, au contraire, est favorable à l'idée. Oui, il y en a des gens qui disent aujourd'hui, j'ai lu tout récemment, on verra encore ce dossier, il y a des gens qui se disent, si nous allons faire des arbres OGM, nous allons augmenter le rendement de la forêt, donc de retrouver de l'énergie. Donc moi, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de penser que, à partir de là, nous allons améliorer le problème. Le bilan des OGM sur le plan environnemental n'est pas terrible. On s'aperçoit aujourd'hui, dans la première année, on l'utilise. Le désherbant à peu près efficace. Aujourd'hui, on sait que, et puis le fameux désherbant, enfin qui devait disparaître biodégradable, mais aujourd'hui, on le retrouve dans l'eau. Donc, non, je pense pas que
Alors,
c'était une bonne idée.
une question de Joël Mété, donc qui s'inquiète de l'avenir des producteurs de colza. Alors, qui veut les prévenir que les producteurs de colza vont dans le mur? Alors, pourquoi iraient-ils dans le mur? Est-ce que quelqu'un a une idée? Est-ce que la filière colza en termes d'agrocarburant n'est pas une filière sûre sur le plan économique, Marie Legrand?
Je crois qu'on a abordé le sujet à plusieurs reprises, chacun à sa manière, et il faut retourner sur le fond. Nous sommes dans un système majoritairement libéral, productiviste. En France et dans la plupart des grands pays industrialisés, c'est le modèle maintenant quasi dominant sur le plan mondial. Nous sommes sur une vision à court terme des choses, ce qui est complètement dramatique dans le cadre du bouleversement climatique. Nous sommes sur toujours le même souci de rentabilité financière la plus rapide possible. Et voilà la cause du désastre dans lequel nous nous sommes tous entraînés. Donc les producteurs de colza, ils sont les victimes d'un système et en même temps ils sont les complices, mais ce n'est pas eux qui vont changer les choses tout seuls. C'est l'ensemble de nos sociétés qui doivent de toute urgence inverser la vapeur et dans un temps record. Moi je vous encourage à lire le livre de Jean Covici, 3 ans pour réussir, il va peut-être un peu fort, mais beaucoup disent moins de 10 ans, sinon c'en est fait.
Christophe Talbot, vous voulez ajouter quelque chose?
Je voudrais ajouter que la culture de colza est une culture qui est sensible sur le plan des maladies en particulier, et qui sont retournées à des assolements courts. D'ailleurs, on retrouve colza après colza, il y aura beaucoup, beaucoup de difficultés, y compris sur les rendements du colza.
Alors, à présent, une question de Gilles Marsa. Quel est le pourcentage d'énergie sous forme d'agrocarburant de première génération utilisé en France, aux États-Unis, au Brésil? Est-ce que quelqu'un connaît la réponse?
En France, donc, si on arrive à 7% en 2010, mais tous les investissements sont programmés, a dit Chantal Joanneau, donc on arrivera à 7%, semble-t-il, en 2010, il y aurait donc 2,7 millions de tonnes d'équivalent pétrole de produits, ce qui ne fait pas grand-chose par rapport à la consommation de pétrole.
Une question à présent de Michel Telia. Troisième génération, comment sont produites les micro-algues et champignons utilisés pour leur fabrication?
Je vois que tu te retournes vers moi, j'avoue mon ignorance. Je ne me suis pas documenté sur la question, mais je vous promets de me documenter. Mais peut-être que madame...
La réponse, vous l'avez en allant sur le site de l'usine séchée FBO du Vigan. Et c'est le professeur Jacques Barbier qui a été l'auteur et le créateur de ce process par le système, un des systèmes promus par Valagro et le pôle des éco-industries. Alors moi j'ai la plaquette à la région sur l'introduction des algues, mais je pense que c'est des micro-algues introduites qui n'arrivent pas à tomber du ciel et après qui prolifèrent avec le CH4.
Christophe Talbot.
Pour la question de précédente, là, j'ai en tête 20% au Brésil aujourd'hui et les États-Unis qui sont de l'ordre de 4-5% à ma connaissance, mais l'objectif est bien de passer à 10-15% rapidement en mobilisant du maïs. Il me semble que c'est une décision qui vient d'être prise, j'ai lu cela en tout cas, et on peut imaginer ce que ça va poser sur le marché du maïs qui est mondialisé, parce que les États-Unis sont fournisseurs de beaucoup de maïs, et que le maïs est très utilisé dans chez les monogastriques, c'est-à-dire chez le porc, chez la volaille. Donc l'Europe va avoir des soucis parce qu'elle importe beaucoup de maïs des États-Unis.
Une question de Gilles Marsa. N'aurait-on pas un gain plus important en investissant dans les économies d'énergie plutôt que dans les recherches d'agrocarburants qui concurrencent donc l'alimentation? On a déjà en partie répondu à cette question, mais peut-être est-ce qu'on pourrait ajouter, est-ce que les investissements en matière d'économie d'énergie sont-ils insuffisants? On sait qu'il y a eu quand même beaucoup d'efforts de fait avec le Code de l'environnement pour investir, notamment mobiliser des fonds de l'État pour inciter à faire des économies d'énergie, notamment dans les habitations. Est-ce qu'on pourrait encore aller plus loin?
Attendez, l'objectif européen et français est clair. En 2020, c'est-à-dire dans 10 ans, il faut qu'on ait réduit de 20% notre consommation d'énergie, qu'on ait réduit de 20% nos émissions de gaz à effet de serre dans 10 ans, et qu'on soit passé en France à 23% de part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique. Mais ça ne veut pas dire que c'est pareil par secteur. Le secteur où il faut le plus travailler, c'est le bâtiment, où on considère qu'en gros c'est du 28 à 30% d'économie. Et sur le bâtiment qui était construit avant 1975, c'est parfois du 80% d'économie à réaliser, tellement ce sont des passoires. Et sur le transport, il y a une part aussi très importante d'économie à réaliser. Et ensuite, on se met tout de suite au facteur 4 pour 2050, division par 4 de la consommation d'énergie. Et là, on n'y est pas. Je veux dire, si on continue à cette vitesse, on n'arrivera jamais à ses objectifs. Il ne faut pas croire que substituer, je le redis parce que c'est important, aux énergies fossiles traditionnelles qui sont en train de disparaître, des nouveaux process avec des huiles végétales, ça va résoudre tout. Il faut aller sur un autre mode de consommation, beaucoup plus sobre. Voilà le message que je tiens à matraquer et à répéter ce soir.
Alors, une question pour Michel Guinet. Donc, à quel horizon devrions-nous passer de la production industrielle d'agrocarburants de première génération aux deuxième et troisième génération? Est-ce qu'on a une idée des délais?
Alors, la seconde génération est déjà presque lancée, mais il va falloir effectivement, comme je le disais déjà tout à l'heure, faire très attention, ne pas se lancer trop vite dans l'aventure et en particulier ne pas se lancer dans la voie thermochimique qui est très mauvaise du point de vue énergétique, donc la voie biochimique étant bien préférable. Mais mon sentiment, c'est qu'il faudrait se lancer directement dans la troisième génération. Alors, puisque j'ai la parole, je reviens un peu sur ce que vient de dire Marie Legrand. Donc, effectivement, là, il faut centrer le débat sur les carburants. Donc, le problème de carburant est un peu spécial. C'est-à-dire que finalement, il est lié directement au déplacement. Donc, il s'agit de diminuer, comme vous l'avez dit, considérablement donc, la quantité de carburant dépensé pour les déplacements, en diminuant les déplacements, en diminuant leur vitesse. Vous avez dit cela tout à l'heure, un chiffre. Il suffit simplement de passer de 130 km/h à 110 km/h pour avoir une réduction de 25 à 30% de carburant. Et il suffit simplement, donc, pour faire des calculs, de prendre le carré de la vitesse. Le carré de la vitesse est proportionnel, enfin la quantité de carburant dépensée est proportionnelle au carré de la vitesse. Et il y a des voies qui ne sont pas suffisamment explorées en France. Le ferroutage, c'est plus qu'évident. Donc les autoroutes fluviales et les autoroutes maritimes sont boudées par les camions également. Et il s'agirait effectivement de les inciter très fortement à diminuer leur consommation. La voie est dans cette direction. Bien évidemment, je pense qu'il y aura quelque part une question sur les voitures électriques.
Alors, il n'y en a pas, mais on peut la poser. Les voitures électriques, est-ce que c'est une alternative crédible? Pour produire l'électricité, il faut une énergie aussi auparavant. Donc actuellement, bon, on a en tête peut-être le nucléaire, mais aussi pour fabriquer de l'électricité, on utilise aussi des hydrocarbures. Qui veut répondre à cette question?
Eh bien, actuellement, la médecine montre que ce sont dans les centres-villes qu'il y a le plus de maladies de type allergique, hein, asthmatique et compagnie, qui sont liées à différents problèmes, dont l'un est tout à fait bizarre, un excès d'hygiène, de lavage, mais ce n'est pas le principal. C'est surtout tous les gaz émis par les voitures. Donc, la solution de flotte captive, de petite flotte captive, de petits véhicules électriques pour des livraisons ou des taxis, des services médicaux, serait loin d'être stupide. Mais il ne s'agit pas de remplacer du jour au lendemain l'ensemble des véhicules des particuliers par des véhicules électriques pour avoir trouvé la bonne solution. Parce qu'on ne changera pas le problème qui est toujours le même, comment réduire nos modes de déplacement, comment consommer différemment, comment faire pour que les grandes surfaces cessent d'être des pompes à véhicules et qu'on s'oriente vers une autre distribution des marchandises. Donc il y a beaucoup d'inventions et j'irai une grande révolution à mener rapidement.
Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Merci à vous quatre, Michel Guinet, Gustave Talbot, Marc Pouzin et Marie Legrand, donc d'avoir répondu à toutes les questions posées par le public ici de Minigout à l'occasion de ce débat organisé dans le cadre de la 25e édition du Festival international du film ornithologique. Et merci donc aux téléspectateurs de Village TV et aux auditeurs de Radio Accord de nous avoir également suivis.